When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous.
Bah, mon père, la brebis sur laquelle il est tombé, en fait, elle était ouverte au cou et puis elle était déjà agonisante.
Oui, bah, c'est sûr que tirer sur un loup, c'est quand même... c'est regrettable. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai du mal à l'accepter. Ça fait toujours de la peine de voir cette année, il y a eu 7 loups tués en Haute-Savoie.
En tout cas, mon père a vu 2 taches grises derrière le troupeau, donc il y en avait au moins 2. Enfin voilà, ils sont arrivés, les 2, ils ont encerclé le troupeau, quoi.
La gueule ouverte et gros comme ça. Je l'ai vu courir dans les bois, car sans sa proie.
C'est des loups tués par balles et par des tirs de défense. Hein. C'est...
Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est peut-être vous.
Lettre sonore numéro 47. Cher loup.
C'est au volant de ma voiture que tout a commencé. Ce jour-là, j'écoute Radio Gifre, la radio associative locale de la vallée dans laquelle, moi, Alice, je viens de m'installer, ici, en Haute-Savoie. Une éleveuse raconte que son troupeau a été attaqué par le loup. Et je comprends rapidement, au ton de sa voix, que le sujet est sous haute tension, ici, où le loup a débarqué il y a seulement 3 ans. D'un côté, des éleveurs, victimes du loup, qui souhaitent une régulation de l'animal. De l'autre côté, des militants environnementalistes qui souhaitent protéger cette espèce menacée. Un prédateur, selon eux, indispensable à l'équilibre de nos forêts. Impossible de mettre tous ces interlocuteurs à une même table, tant le sujet est sensible. Alors que ce dialogue semble sans issue, on décide avec Charlie de réaliser une lettre sonore. Jean-Claude, ancien forestier, amoureux de la nature et défenseur du loup, accepte de se prêter à l'exercice. Il vit en Haute-Savoie, à Passy, près de Chamonix et du Mont-Blanc. À ses côtés, dans cette lettre, vous entendrez Joanie, éleveuse de moutons qui vient de Sixfer à cheval, qui se situe juste de l'autre côté du massif.
T'as pris les longs qui restaient là-bas.
Et comment qu'on opérationne du coup là?
Tiens, sois-moi le compteur.
Eh ben, je pense qu'il faut ton père, toi, Mathieu, moi, Alice,
devant.
Ok. Comme ça. Avant d'arriver vers le pas, il y en a un, il trace, parce que pas que les gens ils s'embarquent
dans le pas.
Et il faut qu'en bas du clos, tu les arrêtes. Pas qu'ils s'y embarquent. Ça te va?
Mais moi, c'est tout bon.
Au mois de juin, chaque année, les éleveurs emmènent leurs animaux pâturer dans les alpages. Fin septembre, quand l'herbe jaunit, il est temps de redescendre. Joanie a accepté que je participe à cet événement. Je la retrouve donc au refuge de Salles, un grand vallon entouré de montagnes situé à presque 1900 mètres d'altitude et accessible seulement à pied. Nous sommes ici en pleine réserve naturelle. Son père, Dédé, qui travaille toujours avec elle, s'y trouve déjà. Une dizaine d'amis sont aussi venus prêter main forte pour guider le troupeau de 300 moutons dans la descente.
Donc là, on est à l'alpage de Salles et on va préparer la démontagnée des moutons. Donc Là, on finit de boire le café, les moutons sont impatients et on va voir le parc et tout le monde en bas.
Donc là, il est même pas 7h du matin.
Ouais, c'est ça, 7h, 7h30. Et puis comme ça, on part avec le lever du jour. Et comme ça, on est à la fraîche, on est bien. Et pas de bruit de moteur. Voilà, tranquille. Avec les chiens, les moutons, et puis voilà. Donc hier, on est monté les chercher. On est monté chercher le berger et le restant du troupeau. Attends, Ludo ! Non, c'est bon.
C'est bon.
Bah, y avait une brebis qui s'était pris, je sais pas, les pieds dans le filet ou je ne sais quoi, mais elle était à moitié sur le dos et voilà, ça me plaisait pas. Et puis bah, là, ce matin, elles nous attendent avec impatience. Elles ont compris, hein, de toute façon, que c'était l'heure de la descente, là, quand c'est comme ça. Elles savent que c'est fini. On descend. Mais en tout cas, on n'a pas eu de perte liée au loup. Les chiens ont vraiment fait leur super boulot cette saison, donc on n'a pas subi d'attaque directe. Il y a eu une pression loup, parce que voilà, le berger, les chiens ont vraiment bossé. On n'a pas eu de soucis liés à la prédation directe. Donc là, en fait, il y a les 300 bêtes là, qui nous attendent. Le berger et deux personnes vont partir déjà devant avec les chiens de protection. Et puis après, ben, on va se mettre en route. Moi, je vais me mettre devant pour les appeler avec 2-3 personnes. Parce qu'après, en cours de route, j'ai 2-3 cachettes pour essayer de les compter. 2-3 et 3, ça se rétrécit, donc je vais pouvoir les compter. Donc il faut après quelqu'un qui soit devant pour les freiner. Et puis après, on redescendra jusqu'en bas à Sixte au village. Et normalement, pour midi, on devrait être en bas, quoi. Ça roule, elles ont l'habitude.
Là, on est dans le hameau du Bétet, sur la commune des Ouches. Et là, on voit, donc c'est un habitat assez dispersé, avec quelques maisons, et on voit dans les prairies, dans les pelouses, et bien, au printemps surtout, on peut voir des cerfs qui viennent pâturer. On les voit sur la route. Hein. Cet hiver, je suis passé, il y avait des cerfs qui étaient sous les lampadaires et qui venaient boire, parce qu'il y a un réservoir un peu plus loin. On peut venir ici, on est pratiquement sûr d'en voir. C'est pas gênant, les gens aiment bien voir des cerfs qui viennent dans leur proche des maisons. Mais après, quand ils viennent dans leur jardin, qui commencent à manger les choux, par exemple, ou les salades, alors là, ça pose un peu plus de problèmes. Mais on va voir un peu plus loin, dans la forêt, les problèmes que ça peut poser. Voilà, je m'appelle Jean-Claude Louis, j'ai 69 ans, je suis ancien forestier, et je suis membre de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui s'occupe non seulement des oiseaux, mais également de la faune en général. J'ai toujours travaillé en forêt, donc s'occuper de la forêt, ouais, c'est un peu comme un... Ouais, elle fait partie de nous, en fait, hein, Alors, moi, j'ai grandi dans la région parisienne, enfin dans l'Oise, et ben, on allait souvent en forêt le week-end. Hein, c'était la sortie dominicale, c'était en forêt. Donc depuis tout petit, j'ai toujours joué en forêt depuis mon plus jeune âge. J'y viens régulièrement pour écouter des oiseaux, pour voir comment elles vivent, pour voir comment elles se transforment. Ben là, j'ai 69 ans maintenant. Je suis pratiquement allé en forêt toute ma vie, en fait. Hein. Après, je suis rentré à l'ONF quand j'avais 21 ou autour de 21 ans. Ouais, l'ONF, c'est l'Office national des forêts. Ouais. Mais j'y ai travaillé pendant pratiquement 40 ans. Ouais. Là, on entend une maison jupée, là.
Vincent, tu les tiens, hein. Et Vincent, on va les retenir là, les brebis. Faut qu'ils vous attendent.
Moi, je suis de Sixte. Alors, Sixte Fer à Cheval, donc c'est au fond de la vallée du Giffre. Donc, c'est un village encore très très rural, très très typique savoyard. Il y a très peu de plats. Hein. C'est tout de suite
du talus puis la montagne, quoi. Donc c'est vrai que on apprend à grimper avant de marcher, quoi. Donc mon père avait une ferme avec ses frères en Gaec et ma mère était instite. Et puis bah du coup le week-end, les mercredis, on allait à la ferme avec papa. Et puis l'été, on passait tout notre été à l'alpage de Salvadon. Et du coup, bah là, on était en immersion totale avec les bêtes. On traisait les chèvres à la main. Alors, petit à petit, on en traisait de plus en plus, quoi. On apprenait. C'était notre façon d'apprendre. Et puis, bah après, j'ai grandi. Les études sont arrivées. J'avais envie d'aller dans l'agriculture. Ma mère, un petit peu moins, m'a dit « passe ton bac, on verra après ». Donc, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. Et puis, je lui ai dit « bah c'est bon, je peux aller dans l'agricole ». Donc, j'ai fait un BTS agricole. Donc, en 2007, j'ai rencontré Franck, mon mari. Et quelques années après, on a lancé l'exploitation maraîchère tous les deux. Et en 2016, mon père a pris sa retraite. Il avait donc un troupeau de moutons. Et c'est moi qui en ai repris la responsabilité. Mais vu la passion qu'il avait, je ne pouvais pas lui enlever comme ça. Et donc, il nous donne encore de très, très gros coups de main. Et il participe encore à la vie de l'exploitation pour la partie mouton.
Nom de Dieu! C'est stressant quand même, hein? Parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Autant ça va bien, une fois que c'est parti. Mais là, toi, ça peut partir à droite, à gauche. Et s'il n'y a pas les chiens, là, on est perdu. Parce qu'il faut être réactif. Elles sont folles.
Cher loup, pour notre famille, tu n'es plus seulement un personnage de conte pour nos enfants, mais une bien triste réalité. Ta présence, comme une ombre qui plane, obscurcit notre quotidien. Ta menace, qui pèse sur nos troupeaux maintenant, nous angoisse. Il n'y a pas un jour où l'on ne pense à toi. Que répondre à notre fille de 4 ans qui réclame une carabine à son anniversaire pour défendre ses agneaux? Alors, en fait, le loup, il est arrivé dans notre vie il y a déjà, on va dire, 4-5 ans. Bon, on en entendait parler, hein. Dans le sud, il y avait des gros carnages. Hein. Ça nous avait dit, oh là là, nous, pour l'instant, on a de la chance. Il n'arrivera jamais chez nous. Enfin, voilà, on va réussir à le réguler avant. Et puis, ça ne se déplacera pas jusqu'à chez nous. Et puis, bah, plus ça avançait, plus on voyait qu'il se rapprochait, en Savoie, tout ça. Et puis, il y a 4-5 ans, bah, ça a commencé à taper sur Chamonix, sur les Aravis, beaucoup. On a dit, oula, là, ça se rapproche. Et puis, il y a 2 ans en arrière, bah, ça a tapé sur Sixte. Donc, il y a eu l'alpage du Grenéron. Il y a eu mes cousins à Salvadon. Là, on s'est dit, aïe, nous, on avait l'espoir que l'alpage de Salles étant très découvert, on s'est dit, ça ne va pas être un endroit qui va lui plaire. Il va peut-être passer, mais il ne restera pas. Voilà. Et puis, l'année dernière, on a été tapé dès la deuxième journée de pâturage, quoi. Ça a été hyper violent parce qu'en fait, on ne voulait pas y croire. On est monté le dimanche. On les a lâchés comme on fait d'habitude, on reste couché le soir, et puis on redescend le lendemain, tout se passait bien et tout. Le mercredi, mon père a aidé mes cousins à monter les genisses à l'alpage de Salles, puis il dit, bah tiens, je vais monter sur le plateau de Chalaman, on va voir comment vont les moutons, quoi. Et là, arrivé au chalet, 2 carcasses. Ah, on avait quand même anticipé en faisant ce que l'État nous préconise, c'est-à-dire un plan loup, en disant, bah voilà, à partir de la première attaque, on mettra quelqu'un qui gardera. Donc là, papa me dit, bah écoute, fais-moi vite une charge hélico avec des filets, de la bouffe pour moi, et puis bah, je garde. Et la charge était à peine partie, j'étais chez mes cousins, mon père appelle, il dit, écoute, on s'est fait taper cette nuit, j'ai vu faire.
Ah bah bon Dieu, quand tu vois la tombée de la nuit, il y avait 2 loups derrière mes brebis. Ils sont disparus, je ne les voyais plus. Ça pleuvait, c'était le soir. Je relève les jumelles un peu plus haut. J'y ai vu, mais quoi faire? Ça m'a foutu en bas.
Donc toi, ça me remet la chair de poule. Et je dis, moi, je te rejoins. Et du coup, bah, arrivé en haut, il m'a expliqué l'attaque. Et en fait, il y a tout vu faire sous ses yeux, quoi. Donc il a crié à la mort, mais tu peux rien faire à part regarder faire les choses. Et puis, il est rentré dans le chalet de misère. Le refuge, il est 300 mètres plus bas en contrebas. Ils l'ont entendu hurler, quoi.
C'est honteux de voir ça. Et moi, ça m'a traumatisé. Et ben là, depuis cela, et ben moi, je suis mort. J'ai perdu 5 ans de vie. Et à cause d'un loup.
Eh oui, le loup du Bois Joli était un loup gentil. Il aidait les petits cochons à construire leur maison. Il gardait les chevreaux quand leur maman devait aller faire des courses. Il accompagnait le petit chaperon rouge chez sa grand-mère, au cas où elle ferait de mauvaises rencontres dans le Bois Joli. Bref, c'était un loup parfaitement gentil. Parfois, les animaux lui disaient
« Hé, loup, fais-nous peur ! Fais-nous un vrai cri, de vrai loup qui donne la chair de poule à des kilomètres à la ronde !»
Alors le loup prenait une grande inspiration, faisait rouler ses yeux, hérissait ses poils et criait
« Aouh !
Les enfants, nous vous avons distribué des petites feuilles, d'accord ? Vous avez des feutres au milieu de la table et vous allez dessiner votre loup, d'accord ? Vous allez imaginer un loup et nous aimerions que vous le dessiniez.
Du coup, je vais commencer par les oreilles, après les yeux, après la bouche, et ça c'est les dents, parce que j'aime bien faire des grandes dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 pattes.
Bien, c'est un bonhomme, c'est parce que moi j'arrive pas à faire des loups.
On est maintenant à Passy, chez moi, où j'habite depuis 45 ans à peu près. On est entouré de forêts, on a la forêt en face sur Tête Noire, et puis un accès direct à la forêt à une centaine de mètres du hameau où j'habite. Et puis bon, sur les montagnes tout autour, on voit la forêt est là en permanence. Alors, le loup, bon, il arrivait en France en 1992, hein, dans le Mercantour. Mais on savait, ils sont venus naturellement. On savait déjà par les Italiens qui nous avaient prévenus, enfin qui avaient prévenu les Français, que le loup allait revenir chez nous, au moins dans le parc du Mercantour, parce que sur le versant italien du Mercantour, le loup était présent. Il est revenu des Abruzzes. Hein, dans les Abruzzes, ils avaient une population de loups qui, après, petit à petit, a colonisé un peu le Piémont et puis les Alpes italiennes. Et puis de là, elle est revenue en France. Il arrivait après en Haute-Savoie beaucoup plus tard, la louve. On a su après que c'était une louve par l'analyse génétique. Elle arrivait en 2004 en Haute-Savoie, c'était sur le plateau des Glières. Et puis après, ici dans le haut de la vallée de l'Arve, les loups sont arrivés en 2019. Les premiers dommages qu'il y a eu au troupeau, c'était en 2019. Et puis après, en 2020, là, il y a eu plus de dégâts parce qu'il y a un loup qui s'est installé là pendant toute la saison et il a fait pas mal de dégâts dans les troupeaux qui étaient mal protégés à l'époque puisque le loup n'était pas présent. Donc les éleveurs n'étaient pas préparés et ne s'étaient pas protégés. Le loup m'a toujours intéressé comme tous les prédateurs. C'est souvent des animaux mal aimés, donc il m'a toujours fasciné. On parle du loup, du lynx, de l'ours, mais il y a aussi le renard, il y a aussi la fuine, la martre, il y a tous les prédateurs en général sont mal aimés parce qu'à un moment ou un autre, ils entrent en conflit avec l'humain, avec les intérêts d'humain. Ça peut être un poulailler pour le renard ou la fuine. Il y a tout un imaginaire qui tourne autour du loup. Et c'est vrai que je me souviens quand j'ai rencontré mon premier loup, là je faisais un inventaire de chauves-souris en forêt sur le plateau des Glières. Et donc j'étais parti un peu avant la tombée de la nuit pour essayer de voir des cerfs et des chamois. Et je suis tombé nez à nez avec un louve. À l'époque, c'était une louve. C'était en 2006. Bah, comme je m'intéressais au loup, je sais qu'il n'est pas dangereux, mais on a quand même surtout une appréhension. On se dit, bah, s'il vient la nuit, s'il vient renifler, s'il vient... Et quand j'ai vu cette louve, je n'ai jamais vu un animal qui avait aussi peur, parce qu'à un moment, il était obligé de passer à découvert pour rentrer dans la forêt, et bah, il courait la queue basse. À aucun moment, il a tourné le regard vers moi. N'importe quel animal qui fuit, au moment où il va rentrer hors de vue de la personne qui l'observe, il jette toujours un coup d'œil pour voir s'il est toujours là, s'il n'a pas bougé. Et lui, pas du tout. Il avait tellement peur qu'il est rentré à toute vitesse dans la forêt. Et oui, j'ai jamais vu un animal qui avait autant peur.
Moi, je connais une histoire avec le petit chimpanzé rouge. En fait, elle avait croisé un loup. Elle savait pas qu'il n'était pas gentil.
Elle l'ouvre et le loup, il dit « Oui, mon enfant ».
Le loup s'approcha du petit chaperon rouge et lui dit «
Oh, comme tu as une grande bouche.
C'est pour mieux te parler, méchant loup.
Et il a aussi dit, vous avez de grandes oreilles. Et il a dit, c'était pour mieux t'entendre, mon enfant.
Oh, comme tu as des grands yeux.
C'est pour mieux te voir, méchant loup.
Et après, il a dit, vous avez des grandes dents. Après, il a dit, c'est pour te manger.
Sur ces mots, le petit chaperon rouge se jeta sur le grand méchant loup et le dévora.
Alors, l'année dernière, moi, je crois que sur mon troupeau, alors, j'ai plus les chiffres précis, hein, mais je crois que j'ai eu une vingtaine de morts, soit directes, soit des suites. Et j'ai eu bien 20 blessés. Donc, en gros, voilà, 40 bêtes touchées sur deux attaques en 5 jours. Quoi. Bah, tu fais le tour de l'alpage, puis tu te dis, bon, je vais en compter combien, quoi. Donc, bah, là, au fur et à mesure, on trouvait des carcasses, on trouvait des brebis agonisantes qu'il a fallu finir de tuer, parce que de toute façon, tu ne pouvais pas les laisser souffrir. Et puis, de toute façon, elles n'allaient pas survivre. Donc, on a abrégé leur souffrance. Il y a une brebis... on entendait respirer par la trachée, quoi. Et en fait, sur toutes les bêtes qu'on a trouvées, c'est une morsure au cou, et c'est tout. Nous, on n'a vraiment eu aucune bête consommée, juste mordillée. Donc, c'est ce qui nous fait penser que c'est des jeunes qui n'ont pas besoin d'autant manger, peut-être, que les vieux, mais qu'ils s'entraînent. Et il y en avait un qui était encore vivant. Voilà, il y avait une trace à la gorge, quoi, c'est tout. Et du coup, quand on a eu tout ramené le troupeau, on a bu le café. Et le temps qu'on boive le café, l'agneau, il avait fini par mourir. Il dit, ça me fait quoi? Ça me tord les boyaux. Moi, je veux pas voir mes bêtes dans cet état-là. Moi, je veux les voir courir. Je dis, mais les laisser agoniser, je peux pas. Il y avait des agneaux qu'on voyait qui dépérissaient, qui se recroquevillaient, tout ça. Du coup, ceux-là, on les ramenait à la maison, qu'on puisse les désinfecter les plaies, tout ça. Et en fait, on les a tondus. Et en fait, bah, c'était plein de traces de crocs de tous les côtés, quoi. Donc ça, déjà, bah, c'est un agneau qui a sa croissance qui est coupée, qui va vivoter. Et puis après, de toute façon, tu ne peux pas le commercialiser parce que des traces de crocs dans les gigots, derrière, après, tu peux plus rien faire, quoi. Donc en fait, bah, celui-là, tu te dis, bah, tu fais quoi? Tu le tues? C'est pas qu'économique, quoi. C'est sentimental aussi parce que bah, voir un agneau qui grossit pas, c'est pas dans sa nature, donc c'est pas normal, quoi. Mais t'es impuissant. C'est un terrain de jeu pour le loup, quoi. Et nous, oui, c'est toute notre économie derrière, quoi.
Là, on a des myrtilles. Et on voit qu'elles ont été broutées. Quand on regarde, bah déjà, elles n'ont plus de feuilles. Et puis à chaque fois, au bout, ça a été coupé net. Elles ont été broutées par les cerfs. Il n'y en a pas toujours eu, ils ont été introduits ici dans les années 70. Avant, il n'y en avait pas. Et bon, ils sont vite développés. Et maintenant, il y a une surabondance. Et c'est quand il y a une surabondance que là, ça pose des problèmes. Par exemple, depuis les années 70, enfin depuis 1970, la population de cerfs et de chevreuils a été multipliée par 11 en France. Une densité de cerfs normale, Il n'y a pas de problème. Au contraire, ils ont un rôle à jouer sur l'entretien de la végétation. Mais c'est quand il y en a trop, où là, ça peut apporter des nuisances. Et c'est pour ça que le loup peut être une bonne chose en régulant la population de cervidés. Et alors là, bon, vous me direz, il y a des chasseurs. Les chasseurs en ont pas mal à tirer, mais les cerfs sont assez malins. Le jour de l'ouverture de la chasse, dès qu'ils entendent les premiers coups de fusil, ils vont ici dans les gorges de la Diosse. C'est un endroit impénétrable où il n'y a pas de sentier, il y a des barres rocheuses, et donc les chasseurs ne peuvent pas y aller. Voilà, là, on voit aussi une zone où il y a souvent des cerfs. Ben, on voit que ben, les saules, ben, ils n'ont plus de feuilles. On va voir si on trouve des sapins, mais on ne voit pas beaucoup de sapins, et en fait ça devient inquiétant parce que la forêt, il faut qu'elle se régénère, il faut qu'il y ait d'autres petits arbres qui poussent, et là, ben, pour l'instant, on n'en a pas vu encore. C'est l'avenir de la forêt qui est engagé. Là, voilà, si, on en voit un là. Voilà, ben ça c'est un sapin. Voilà, on voit un jeune sapin, hein, il fait à peu près 20 à 30 cm de haut, et on voit qu'il a déjà été abruti, là on voit des traces d'abrutissement, là aussi des pousses qui ont été mangées, et normalement il devrait être beaucoup plus haut que ça. Hein. C'est toujours un peu difficile de voir un arbre comme ça qui est en train de dépérir. Hein. Je pense que un sapin comme ça qui commençait à vivre, ben il a été brouté, il reste plus rien. Je pense que je suis un peu dans la même situation que l'éleveuse, par exemple, qui a été attaquée, qui a des moutons qui ont été attaqués. Je pense que ça c'est assez similaire comme impression. Et donc, c'est vrai que voir que les gens sont contre le loup, enfin, pas tous, puisque la majorité des Français sont favorables au loup, mais de voir que des éleveurs sont contre le loup et qu'ils ne se rendent pas compte que, bah, qu'il a un rôle à jouer, notamment en forêt, et qu'il n'y a pas que des agriculteurs, il n'y a pas que des éleveurs, il y a aussi des forestiers qui ont besoin du loup. Hein. Parce qu'il y a une surabondance de cerfs. L'homme a introduit le cerf, et puis ben, il n'arrive plus à le dominer. Et ben, il n'y a que le loup et les prédateurs qui peuvent le réguler maintenant.
Chers défenseurs du loup, je comprends ce besoin de biodiversité que vous défendez. Nous sommes nous aussi garants de cet équilibre. Il me semble que de par notre travail en alpage et celui de nos ancêtres, nous avons tout mis en œuvre pour préserver cette nature et la faire vivre. Quand nos animaux pâturent, ils ouvrent les paysages et permettent à d'autres espèces d'exister. Donc on a dit, bon ben, on continue pas comme ça, on redescend tout. On n'est pas équipés pour les garder. Déjà nous, on n'est pas des bergers, on est des éleveurs. Donc là, fallait apprendre sur le tas à être berger. Donc elles ont fait à peine une semaine, quoi. Enfin non, si, 10 jours. Elles sont montées le dimanche et elles sont descendues le jeudi qui a suivi, quoi. Donc du coup, elles ont mangé tout l'été après l'herbe que normalement devait nous servir à faire du foin. Donc il a fallu acheter du foin pour l'hiver. Et les agneaux étaient maigres. J'ai perdu facilement 5-6 kilos de carcasse sur mes agneaux parce qu'en fait... L'herbe, elle n'est pas aussi grasse que l'herbe d'alpage. Donc, en fait, ils n'ont pas profité comme ils auraient dû. Et la grosse répercussion aussi qu'on a eue, c'est que du coup, à la mise à la lutte, donc comment on a mis les béliers, elles n'avaient pas l'état physique qu'elles avaient les autres années. L'état psychologique non plus, je pense. Et bien, cette année, à l'agnelage, on a eu 3/4 du troupeau qui n'ont fait que des simples. Un agneau par mère, là où d'habitude, elles en font 2 ou 3, quoi. On a eu vraiment une grosse perte de... en naissance cette année, quoi. Et on pense que c'est quand même lié au stress qu'elles ont eu cet été, enfin l'été d'avant, quoi. Et voilà. Alors l'impact économique, ça a été pas de foin, donc il a fallu en acheter puisqu'elles ont pâturé. un poids carcasse à la fin de l'agneau qui n'était pas de qualité. Je m'en suis fait refuser. Bah, mes agneaux Pays de Savoie, là, ils ne sont pas passés. Donc, ils n'avaient pas le poids total pour les boucher, tout ça. J'ai facilement un tiers de moins, à mon avis. Bonnement, un tiers de moins en chiffre d'affaires, donc en vente d'agneaux en moins. Et après, t'as tout ce qui est achat de foin qui est à prendre en compte. Donc, ouais, je pense qu'un bon tiers de différence, ouais, à la fin de l'année, quoi.
Chère éleveuse, vous n'ignorez pas que les éleveurs peuvent bénéficier d'aides de l'État pour se protéger. Filets pour les parcs, chiens de protection, vous pouvez toucher 375 euros par chien, plus 815 euros pour leur entretien, plus une somme pour la formation. Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge pour un berger de 1250 euros à 2500 euros par mois. Nous avons besoin du loup. C'est un prédateur qui a un rôle important à jouer pour réguler les ongulés, c'est-à-dire les cerfs, les chamois, les chevreuils, les sangliers, mais aussi pour dynamiser toute une chaîne du vivant. Ancien forestier, je suis sensible à l'évolution de la forêt. Tant qu'il sera plus facile pour le loup de s'attaquer à des moutons plutôt qu'à la faune sauvage, il ne remplira pas son rôle de régulateur. Je n'ai rien contre les éleveurs. Je souhaiterais juste que ceux qui ne voient dans le loup qu'un ensemble de problèmes acceptent mieux sa présence, qu'ils acceptent aussi de mettre en place des mesures de protection de leurs troupeaux. Cela permettrait une possible cohabitation que j'espère. Ah ben voilà, ouais. Ouais, ouais. Voilà, ben j'ai retrouvé. Alors, en 2020, on a fait une étude avec Pascal Sourdin pour la LPO France Nature Environnement et Animal Cross. Et c'était pour étudier la relation entre protection des troupeaux et les attaques de loups en Haute-Savoie. Alors, on a été visiter des troupeaux un peu partout en Haute-Savoie. Et on s'aperçoit que sur ceux qui sont bien protégés, ben, ils n'ont pas d'attaque ou très peu d'attaque. Hein. Donc, ça montre que leur protection est efficace. Par contre, sur ceux qui ne sont pas protégés, ben, ils ont eu des attaques pratiquement toutes les années. Alors, c'était entre 2017 et puis 2020. Plutôt que de palabrer et de dire « ben non, il faut l'éliminer ». Ils essayent de rechercher une solution et c'est une méthode quand même un peu plus intelligente que de dire « non au loup, on n'en veut pas » et d'éviter de se protéger. Il faut savoir qu'au début, les éleveurs ils refusaient de se protéger parce que c'était dans les premières années du réseau Grand Prédateur qui suivait donc l'avancée du loup. Les éleveurs participaient, donc on discutait avec eux, mais eux, ils ne voulaient pas mettre en place des mesures de protection des troupeaux parce que c'était reconnaître la présence du loup et comme ils ne voulaient pas de loup, pas de protection, ils ne voulaient pas de protection. Donc bon, ça a duré un temps, maintenant ils sont bien obligés, s'ils veulent être indemnisés, de mettre en place ces mesures de protection. Pour être indemnisé, il faut avoir au moins deux mesures de protection, donc parc, chien de protection ou berger. Il faut deux de ces trois mesures pour pouvoir être indemnisé.
Tu n'arrives pas à les tenir, ouais, c'est sûr. Nom de Dieu, doucement. Faut le reviennent. T'as vu les dernières là, elles ont chié pour descendre là-bas.
Max, stop.
Ouais, il y en a une qui est coincée, elle va y aller, mais... Toi, elle va faire le tour là-bas.
Non, gauche. Allez, gauche.
Donc du coup, ben, cette année, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte encore avec ce troupeau? Est-ce qu'on abandonne tout? Et du coup, on s'est remotivé. J'ai eu plusieurs coups de fil pour des bergers. Et là, on est tombé sur un gars qui était sur Béziers. Il dit « Ah, mais moi, c'est ce que je cherche. J'ai des chiens de protection. J'en ai 6. Moi, ça me tente de tenter la Haute-Savoie. Je viens. » Et du coup, il est venu avec... il avait un petit troupeau d'une vingtaine de chèvres. Ses chiens de protection. Et il a débarqué à Sixte. Alors, ça en a surpris plusieurs. Donc même des locaux, parce que du coup, ces chiens étaient dans nos parcs, qui sont au cœur du village de Sixte, quoi. Et puis après, bah, il y avait la réserve naturelle qui avait peur par rapport aux touristes. On comprend que ça fait peur. Un chien, un gros chien, taille berger allemand qui arrive sur toi en aboyant, quelqu'un qui a peur des chiens ou même... c'est impressionnant. Et on a dit, bah si, on n'a pas le choix. Pour l'instant, à l'heure actuelle, donc début septembre, on n'a pas eu d'attaque sur notre troupeau. Les voisins se sont fait taper. Nous, par contre, quand on sait que les voisins ont eu des dégâts, on voit avec le berger, et c'est des nuits où les chiens sont intenables. Donc, c'est que le loup est passé à côté de notre troupeau. Il était suffisamment protégé pour le moment. Ça a repoussé l'attaque. Malheureusement, c'est passé sur les voisins, quoi. Mais c'est bien que la présence, elle est constante et qu'elle est installée et que à partir de maintenant, on va être obligé de mener le troupeau comme ça, quoi.
Qu'est-ce que je défends ? Eh ben, bon Dieu, je défends les traditions. Alors, ils nous font des montagnes sur le patrimoine. Mais c'est quoi le patrimoine ? C'est bien les gens qui vivent là, sur place. Eh ben, dans le temps, on montait nos bêtes, on redescendait des bêtes. Elles étaient en vacances l'été en montagne. C'était les vacances. Et nous, ça nous faisait du bien aussi. On se reposait. Et les bêtes étaient heureuses et tout. On redescendait des agneaux nickel, monstre gros. Et bien, cette année, ben, faut garder, c'est tout, faut parquer. C'est la misère. Mais moi, j'aurai des moutons jusqu'à la mort, mais c'est malheureux. Et je n'arrive pas à accepter ce qu'on nous demande aujourd'hui, là. Ce qu'on nous impose. C'est du bricolage. On ne va pas pouvoir vivre comme ça. Ben moi, je voudrais bien en tirer des loups. On ne peut pas vivre avec le loup. Et là, je prends mon permis de chasse. Et ben, c'est pour exterminer les loups. Ça ne peut pas vivre avec nous.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité.
Sire,
répond l'agneau,
que votre majesté ne se mette pas en colère.
Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès.
Je suis vraiment en colère, c'est contre l'État. Contre l'État, parce qu'en fait, ils nous disent il faut faire ci, il faut faire ça. Ah ben, faut vous protéger, faut mettre des chiens, faut parquer. Mais en fait, c'est déjà des choses qu'ils ont demandé à faire dans les Alpes du Sud, mais il y a déjà 30 ans. Et ça n'a pas marché. Comment on fait pour parquer 500 hectares ? Il y a un moment, des agneaux, si tu veux que ce soit de l'agneau d'alpage, il faut qu'ils puissent courir. Il faut qu'ils puissent être en liberté. Et puis, des bergers, bah, ça court pas les rues, quoi. À force, dans les Alpes du Sud, ils les ont tous pris. La plus grosse colère, c'est l'État qui veut pas entendre ce danger pour le pastoralisme et l'agriculture française et notre agriculture de label, de qualité. Parce que oui, tu peux faire de l'agneau en bergerie. Rester au grain, rester au foin. Mais de l'agneau d'alpage, la qualité de la viande d'agneau d'alpage, il n'y a qu'à l'alpage que tu peux la faire. Ils nous donnent des subventions... Bah oui, bah du coup, on va vous aider à payer le chien. Ça paye même pas la moitié du chien. Ils nous donnent un petit peu pour payer les croquettes. Normalement, ils doivent nous prendre en charge le berger. Pour l'instant, il faut quand même avancer les frais, puis sur facture. Moi, j'ai des collègues, ça fait 3 ans qu'ils attendent la paye du berger d'il y a 3 ans. Donc voilà, on dit on a des aides, mais c'est quand même plusieurs après-midi à faire le dossier, parce que t'as des délais, puis ça manque toujours un papier, puis il faut demander ci, il faut demander ça, il faut être à jour de ci, de ça. Enfin bref, c'est une usine à gaz, comme si on n'avait pas assez de boulot encore, ils nous rajoutent de la paperasse. Ma colère contre l'État, elle est là, parce qu'en fait, là, on le sait que ça va péter. On le sait qu'on laisse les gens dans la mouise, pour être poli. On leur dit au préfet, on leur dit au préfet coordinateur, on le dit à tout le monde. Mais en fait, on a l'impression que personne nous écoute, quoi. C'est ce manque de dialogue.
Oui, alors il y a de tout. C'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont un peu, disons, excités. Bah, j'ai vu des éleveurs qui m'ont menacé. C'était, je me souviens d'un débat au sujet de sur le loup, et il y a un éleveur qui habite à côté. Que je connais bien, parce que je lui prenais aussi du fromage de temps en temps, mais il était outré et il m'a menacé. C'est vrai qu'il se plaignait de ne pas être aidé par l'État, qu'ils n'avaient pas d'aide. Je lui ai dit, en tant que contribuable, vous ne pouvez pas dire que vous touchez rien, vous touchez telle somme de... On ne peut pas dire que l'État fait rien. Ah ben là, il m'a menacé, il m'a demandé où j'habitais, qui j'étais. Je lui ai dit mon nom, je lui ai dit où j'habitais aussi. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais c'est vrai qu'il essaye d'être menaçant. Sur le sujet du loup, les éleveurs sont très remontés. Hein.
T'es à combien ?
Non,
toi, t'as combien ? Normalement, 306, ce qui serait à peu près logique.
À peu près cohérent, ouais.
Ce serait cohérent. Toujours le stress du comptage, que voilà. Papa croit toujours qu'on va pas y arriver, mais... Ben, même là, tu vois, c'est pour ça qu'on est parti de bonne heure le matin, c'est pour croiser le moins de monde possible. Parce que Ludo, qui est devant avec les chiens de protection, tu sais pas trop comment... Hier, quand il est descendu, il s'est fait agresser, donc c'est compliqué.
Insulté par un randonneur
qui trouvait inadmissible que son chien aboie en montagne, quoi. Alors que le chien était tenu en laisse, qu'il n'y avait aucun danger, quoi. Mais... On venait perturber sa quiétude de la montagne, voilà. Mais bon, on n'avait pas le choix, quoi. Il faisait son boulot, c'est tout.
Il y a des associations environnementalistes et c'est des gars qui ont du temps et du matériel pour venir sur les alpages, qui font des dégâts délibérés sur les alpages. Moi, j'ai plusieurs bergers qui se retrouvent avec le duvet au milieu du pierrier, la tente dégradée. C'est des dégradations volontaires. Le berger, il en chie déjà assez, quoi. On nous impose déjà le loup, on nous impose des contraintes et tout. Là, moi, mon berger, il est dans une cabane de 6 mètres carrés, hein. Il n'a pas la douche, hein. Il n'a pas la douche, il n'a pas l'électricité. Il dégrade les panneaux d'information comme quoi il va y avoir des chiens de protection. On se retrouve avec des panneaux dégradés. À quoi ça sert, quoi ? Si en plus on peut même plus être dans le dialogue avec les gens, c'est presque la guerre et ça va mal finir. Parce que, en fait, moi je ne demande pas de l'exterminer, le loup. C'est une espèce, il n'y a pas de problème. On va pas y monter avec des kalachnikovs ou des mitraillettes, hein. C'est très dur à avoir un loup. Mais au moins qu'on puisse avoir une arme, quelque chose d'efficace en effarouchement. Parce que, lui foutre un coup de lampe dans les yeux, c'est bon, hein. Il va vite comprendre que la lampe, elle lui fait pas mal, hein. Donc, soit que ça rentre dans un plan de chasse, comme on a le plan de chasse pour les sangliers, pour les chamois, pour les cerfs, que par commune, il y a tant de bêtes à tuer parce que on estime à tant de bêtes, donc il faut en enlever tant, une régulation comme ça. Et pourquoi pas une régulation par l'éleveur en cas de défense. Moi, j'appelle ça de la légitime défense. Que y en a un, tu tires, tu l'as, et tu l'as pas, au moins il a eu peur, mais tu l'as pas eu, mais au moins tu as eu le droit d'essayer. Enfin, c'est de lui faire comprendre qu'il a pas le droit de toucher de la laine. Il faut l'éloigner des zones de pastoralisme. Mais le problème, c'est qu'après, on a tous ces extrémistes qui veulent à tout prix préserver cette espèce menacée. Mais c'est pas parce qu'on va tuer celui qui a attaqué notre troupeau qu'il n'y en a pas 5-6 qui sont derrière, quoi.
La plupart des associations qui s'intéressent aux loups, que ce soit FNE, que ce soit la LPO, on n'est pas contre le tir des loups, qu'un agriculteur puisse se défendre, à partir du moment où il a mis en œuvre des mesures de protection. Hein. Donc, il y a trois mesures pour avoir des tirs de défense. Il faut avoir pris trois mesures de protection. Donc, un berger, des chiens de protection et puis un parc électrifié. Il met ces mesures de protection. Après, bon, si un loup qui attaque, qu'il puisse se défendre, ça, on l'accepte tout à fait. Mais on ne veut pas qu'il tire des loups comme ça sans avoir mis en place des mesures de protection avant. Ouais. Ou alors faire des tirs d'effarouchement, c'est avec des balles en caoutchouc, comme la police les utilise dans des manifestations. Il y a eu pas mal de blessés dans les manifestations à cause de ça. Mais le loup, bon, ça va lui faire mal, mais ça va pas, c'est pas létal, il va pas en mourir. Ces tirs d'effarouchement, et ben ça va lui permettre de comprendre. Ben là, j'étais à côté d'un troupeau, il y avait l'homme, et il va associer blessure et douleur et troupeau. Donc là, il va la fois d'après, il va pas. Enfin, il va agiter deux fois avant de réattaquer.
Il y a un moment, on parle du bien-être animal, mais le bien-être de l'homme, il est où, quoi ? Puis le bien-être de l'animal, se faire croquer comme ça, agoniser, il y a plus... Enfin, voilà. Moi, il y a un moment où... Et puis le bien-être de l'homme, le berger, mais les éleveurs, quoi, parce que l'impact psychologique sur toute la famille, ça rentre pas dans les cases. Personne n'y prend en charge, ça. Hein. Nous, il a fallu batailler... batailler pour que moi j'ai le droit à une prise en charge des séances de psy et ma fille, il a fallu batailler aussi et un gros blocage par rapport au loup, quoi. Parce qu'elle, le loup du chaperon rouge, elle sait ce que le loup du chaperon rouge il peut faire comme dégâts, quoi. À l'école, ils avaient eu un conte musical sur le loup. La maîtresse m'a dit, Sylvana, elle s'est liquéfiée. Donc c'est pour ça qu'on a enclenché les séances de psy derrière, parce que voilà. Mais voilà, elle sait ce que c'est qu'un loup, quoi. Elle sait ce que c'est la mort, quoi. 4 ans, c'est un peu raide, quoi. Alors mon père, lui, il a pris 10 ans en un été. Et du coup, lui, il a 65 ans. Mais lui, depuis qu'il a 6 ans, il a des moutons. Donc il se voit pas arrêter. C'est sa vie, c'est son sang, c'est ses tripes, quoi. Et ça c'est pas réparable, c'est pas quantifiable. Et puis c'est pas... Tu sais pas quoi en faire, quoi. Ça reste... Et moi, on est désemparés. Et en fait, j'ai fait un burn-out, tout simplement, quoi. Il y a un moment, tu peux plus, quoi. En fait, c'est un ensemble. Nous, avec le système qu'on a sur la ferme, donc j'ai les légumes, j'ai les moutons, j'ai les enfants. Enfin, voilà, nous, c'est tout imbriqué ensemble. Et l'été, c'était les vacances pour les moutons. Et nous, du coup, on a moins besoin d'aller s'en occuper. Donc, j'ai le temps de me consacrer aux légumes. Et un peu aux enfants. Le problème, c'est que l'année passée, j'abandonnais ma fille et mon fils pour monter à l'alpage. Alors moi, déjà, en plus, pour remettre dans le contexte, l'année dernière, donc j'ai accouché au mois d'avril. Et donc, du coup, début juillet, fallait que je monte à l'alpage faire l'inventaire pour mes bêtes. Donc, mon gamin de 3, même pas 3 mois, il fallait déjà que je le laisse en bas 4-5 jours. Je savais pas combien de temps je le laissais en bas. Heureusement, il était déjà plus au sein, mais rééducation du périnée, top. Faut faire des constats, faut envoyer les photos. Ah, mais lui, il est en vacances, alors envoie-les plutôt à lui. Et puis après, t'en as qui meurent en cours de route. Et du coup, faut me renvoyer les photos de ceux qui sont morts. Mais t'es sûr qu'ils sont morts à cause d'eux? Je dis, oui, j'avais fait la photo quand je les ai tondus. S'il y avait des crocs, voilà. Donc en fait, faut se battre. Et du coup, c'est une surcharge. Et puis, j'ai éclaté en plein vol, quoi. C'est plus tenable, quoi. Voilà. Ça devenait trop. Trop, et voilà, quoi. Après, c'est les nerfs qui lâchent, quoi. Après, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler, quoi. Tu continues. Tu mets le poing dans la poche, et puis tu craques le soir, et puis voilà, puis tu repars le lendemain, puis t'as pas le choix. Tu repars. Mais voilà, jusqu'à quand ?
Chère éleveuse, jusqu'à l'année dernière... J'aidais une éleveuse à remettre ses clôtures en état au printemps. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite. C'est pourquoi je sais combien votre métier est difficile. J'imagine l'anxiété de l'éleveur dont les animaux ont été attaqués. Il doit se réveiller en se demandant si son troupeau n'a pas eu à nouveau la visite du loup, s'il ne va pas retrouver des moutons égorgés. Mais je ne comprends pas un certain acharnement contre le loup. Avant son arrivée dans notre département, les chiens errants occasionnaient beaucoup plus de dommages aux troupeaux qu'aujourd'hui. Pourtant, je n'ai jamais vu de manifestation d'éleveurs contre les chiens errants. Alors pourquoi cet acharnement contre le loup ? Il me semble que si j'étais cambriolé, je chercherais d'abord à protéger mon habitation. Bien sûr, j'en voudrais aux voleurs, mais je chercherais les moyens à mettre en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise en me protégeant mieux.
Et vous verrez dans 15 ans, quand vous allez vous réveiller, ça sera trop tard. Et des loups, il y en aura partout la tête. et il n'y aura plus de gibier, il n'y aura plus rien du tout. Vous allez voir quoi, en montagne, vous n'aurez même pas à y aller. Et puis, ça sera un monstre déséquilibre. Vous ne la protégez pas, la nature, vous la tuez avec ça. C'est nous qui sommes menacés, ce n'est pas le loup.
Les éleveurs sont menacés.
Ouais, c'est l'éleveur. Putain, ces écolos qui nous emmerdent de tous les côtés et qui ne connaissent rien, voilà. Faut écouter les gens du pays. Faut écouter les gens du cru.
Ça va aller plus loin que les bêtes sauvages. Hein. Là, ça commence à se dire que des loups commencent à suivre les randonneurs. Enfin, le loup n'a plus peur de l'homme. Donc, mais c'est dramatique de devoir en arriver à un accident avec un humain directement lié au loup. Parce que pour l'instant, il y a des impacts indirects.
Non, bah le loup a toujours peur de l'homme et il ne s'approchera pas de l'homme. Alors c'est vrai qu'on peut se trouver nez à nez avec un loup. Si vous arrivez à un col et que le loup arrive au même moment que vous, vous allez vous trouver nez à nez, mais vous verrez qu'il va partir. Ils ont peur de l'homme. Alors c'est vrai qu'on dit qu'ils se rapprochent des villages, donc ils ont moins peur de l'homme. Mais non, s'ils se rapprochent des villages, c'est parce que les cerfs, les chevreuils... même les chamois descendent un peu plus bas parce qu'il y a moins de neige et c'est plus facile de trouver sa nourriture. Donc bah, les loups, ils suivent leur proie. Hein. Si leur proie descend, eh ben, ils descendent aussi pour les suivre. Donc ils se rapprochent des villages parce que les cerfs et les chevreuils se rapprochent des villages. Donc, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus peur de l'homme. Hein. C'est, à chaque fois, les loups fuient devant l'homme. Hein.
Les loups, ça vit dans les noirs, dans la forêt. En fait, du coup, le loup, il se met dans l'herbe pour observer mieux sa proie. Et après, quand il est tout près de sa proie, alors il se jette sur un lapin. Il adore les lapins, alors du coup, il se jette sur des lapins. Alors du coup, il le dévore.
Et aussi, les loups, ils peuvent manger des humains.
Moi, il me fait pas peur, parce qu'il est pas très grand.
Moi, la nuit, bah, j'ai peur du loup.
J'ai peur du loup quand je dors.
Moi, pourquoi pas loup rentre à la maison et je vais toujours fermer les portes à clé.
Le loup, c'est mon copain.
En fait, je pourrais même vivre avec le loup.
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé avec la participation des enfants de l'école maternelle de Verchet et de la comédienne Clara Cantos. Un immense merci à eux. Si vous voulez connaître le récit de ce tournage, avoir accès à des photos et à des vidéos du démontagnage, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. On vous y raconte aussi les coulisses de nos épisodes et on vous propose des bonus sonores. Vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.